Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chères femmes et bien chers amis, nous en sommes au chapitre 8 de Saint Jean, verset 25, sur le polycopier qui contient les commentaires des Pères de l'Église sur les chapitres 6 à 10 de Saint Jean. Nous en sommes à la page 21. Donc voilà les versets que nous allons commencer à commenter. Versets 25, 26 et 27 du chapitre 8 de Saint Jean. Et lui dire donc, qui êtes-vous ? Jésus leur répondit, je suis le principe, moi qui vous parle. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est véridique, mais ce que j'ai appris de lui, je l'ai dit dans le monde. Ils ne comprirent pas ce qu'il disait, pas qu'il disait que Dieu était son Père. Donc notre Seigneur va affirmer de façon plus ou moins détournée que son Père et lui sont consubstantiels, c'est-à-dire ont la même substance divine. Il est évident que là on touche au plus grand des mystères de la foi catholique, le mystère de la Sainte Trinité, un Dieu en trois personnes égales et distinctes. Et que même avec les textes officiels, je dirais, de l'Esprit Saint, c'est-à-dire le texte de l'Évangile, eh bien, on ne peut pas enlever le mystère. On peut creuser un peu, mais on ne peut pas enlever le mystère. Alors voyons un petit peu ce que disent les Pères de l'Église sur ce sujet, à la page 22 donc, du polycopier. Je suis depuis le début, c'est-à-dire de toute éternité, vrai Dieu de vrai Dieu. Rappelez-vous ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit lorsqu'il est apparu, qu'il a parlé à Moïse dans le désert d'Égypte. Il a dit, en parlant depuis le buisson ardent qui brûlait sans se consumer, donc symbole non seulement du mystère de l'incarnation, mais aussi symbole de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est inaltérable. Et notre Seigneur Jésus-Christ a bien dit, « Je suis celui qui suis, je suis celui qui est ». Ceci est à rapprocher de ce qui est dit ici au verset 25, « Je suis le principe, moi qui vous parle ». Je suis le principe, c'est-à-dire je suis celui qui a toujours été et qui ne change pas. Je suis donc le début du temps, des âges, de toutes choses. Pas simplement Dieu le Père, mais également Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, parce que c'est le même Dieu qui parle. Même s'il y a une séparation des personnes à cause des relations intra-trinitaires, ce sont ces relations qui sont en fin de compte la Sainte Trinité, c'est par ces relations de paternité, de filiation, d'inspiration et de procession que la Sainte Trinité existe. Même si c'est pour nous un très grand mystère. Cependant, je vous parle car j'ai pris chair et fus fait homme pour vous l'annoncer et sauver ceux qui croient car je suis le Verbe. Donc, vous voyez, on voit très bien qu'il y a des choses qui sont éternelles. Je suis depuis le début, je suis de toute éternité, disent les Pères. Et en même temps, il y a des choses qui sont temporelles. C'est pour ça que le temps, elle ne m'a pas le même. Je fus fait homme pour vous l'annoncer. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas dire « J'ai été fait Dieu ». Il a été fait homme parce qu'il a toujours été Dieu. Donc il ne peut pas dire j'ai été fait Dieu. Par contre, l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ n'ayant pas toujours existé, mais ayant commencé à exister dans le temps, au moment précis de l'incarnation dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie, Dieu peut dire je fus fait homme pour vous l'annoncer et sauver ceux qui croient car je suis le Verbe. Donc le mot principe utilisé ici par l'évangéliste Saint Jean au verset 25, je suis le principe, moi qui vous parle. Le mot principe est plus approprié au Fils qu'au Saint-Esprit, car le Fils avec le Père est la source, le principe du Saint-Esprit, ainsi, alors que le Saint-Esprit n'est pas la source d'une autre personne divine, mais seulement des créatures. Ce principe d'où il vient n'est autre que le Père. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation qui existe entre le Père et le Fils, de paternité du Père au Fils et de filiation du Fils au Père. Et donc cela va générer. Dans ce processus de génération éternelle, ça va générer le Verbe de Dieu. Il faut faire attention encore une fois aux termes qu'on utilise quand on parle de paternité ou de filiation. Il ne faut pas du tout évidemment penser à une paternité ou une filiation dans le temps. C'est une paternité éternelle, une filiation qui est éternelle. Donc Dieu en tant que Fils, notre Seigneur Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, n'a pas commencé à exister. Il n'a commencé à exister que dans son humanité, puisque cette humanité a été créée de toutes pièces le 25 mars, donc créée avec le corps, le sang et l'âme de notre Seigneur. Par contre, sa divinité, elle a toujours été. Moralement, apprenez donc que le Christ, comme Dieu et comme homme, doit être regardé comme le début et la fin de tout ce qui se fait. On trouve ce même texte dans l'Apocalypse. Je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le début et la fin. L'alpha étant la première lettre, l'oméga la dernière lettre. Je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire j'ai toujours été, je contiens en moi tout ce qui a été, tout ce qui a pu exister. Donc Dieu est le début et la fin de tout ce qui se fait. C'est pour ça qu'il est la cause suprême de toute chose. Il est la cause efficiente de toute chose. Rien ne peut avoir été fait sans lui. Autre texte de Saint Grégoire de Nazianze. En vous sont tous mes espoirs de vie. Vous êtes mon début, mon but et ma fin. Tous les chiffres commencent par l'unité. Toutes les lignes viennent du centre de la circonférence. Ainsi, toutes les actions du chrétien commencent et finissent dans le Christ. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est la fin de toute chose. Rappelez-vous la devise des Chartreux, le monde tourne et la croix demeure. Donc tout commence et finit dans la croix du Christ. Encore une fois, là, on touche un très grand mystère, le mystère de la Sainte Trinité. C'est pour cela que beaucoup d'hérétiques ou de personnes d'exégètes imprégnées d'hérésie ont pensé que cette théologie de Saint Jean, telle qu'elle apparaît dans ces chapitres de Saint Jean sur la Sainte Trinité, sont beaucoup trop élevées pour avoir été élaborées déjà au 1er siècle. Et donc, ils ont eu tendance à repousser l'écriture de l'évangile selon Saint Jean de plusieurs siècles, en disant c'est pas possible que Saint Jean ait déjà et soit déjà arrivé à un tel niveau de intellectuellement parlant, divinement parlant, on peut dire. Et donc ces textes ont été écrits beaucoup plus tardivement. Ou ils prennent Saint Jean pour un imbécile, ces gens-là, ou ils prennent. Ils oublient que Saint Jean a écrit son texte sous la dictée du Saint-Esprit. Donc il ne peut y avoir d'erreur. C'est Dieu qui est responsable de tout ce qui est écrit dans la Sainte Écriture. Avançons, Saint Jean chapitre 8, versets 28, 29 et 30. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme il disait ces choses, beaucoup crurent en lui. Voyant ce que disent les Pères, on peut encore établir autrement la suite du discours du Sauveur. Il n'avait pu convertir les Juifs malgré la multitude de ses miracles et la force de ses divins enseignements. Il ne lui reste donc plus qu'à leur parler de sa croix. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, j'attirerai tout à moi. Attention, même notre Seigneur Jésus-Christ, même dans sa divinité, notre Seigneur Jésus-Christ respecte le libre arbitre de ceux à qui il parle. Et malgré le fait qu'il ait fait tant de miracles devant ces gens, ces juifs, qu'il ait rempli toutes et chacune des prophéties de l'Ancien Testament. Beaucoup ne vont pas croire. Ici, on voit que certains vont croire, beaucoup crurent en lui. Mais là, ce nombre de ceux qui vont refuser notre Seigneur Jésus-Christ, refuser de s'humilier, surtout dans les classes sociales élevées, notamment chez les pharisiens, les scribes, bien, ils vont refuser de croire en lui. Vous pensez que vous serez délivrés de moi lorsque vous m'aurez mis à mort, mais moi, je vous dis que c'est alors surtout que l'éclat des miracles, ma résurrection et votre propre captivité vous feront connaître que je suis le Christ, le Fils de Dieu, que je ne lui suis point opposé. Donc c'est au moment précis où le démon pensait avoir rempli, avoir détruit complètement notre Seigneur Jésus-Christ le vendredi saint à 3h de l'après-midi, c'est à cet instant même où en fait notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu le démon. Donc les démons ont vraiment dû croire à ce moment-là, ça y est, j'ai vaincu. Alors, est-ce que le démon était au courant de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? Vraisemblablement pas, parce que si le démon avait su par avance que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu, il ne l'aurait pas fait crucifier, parce qu'il aurait pu deviner, n'oubliez pas qu'il est comme une intelligence angélique, puisqu'il est ange, ange des ténèbres, mais ange quand même, il aurait deviné que la mort de l'homme, Dieu, aurait signifié la destruction de son propre royaume, le royaume du démon. Et donc, il n'aurait vraisemblablement pas fait crucifier. Encore une fois, c'est pas très clair chez les pères de l'Église. Certains pères de l'Église pensent que le démon savait. D'autres pères pensent qu'il ne savait pas. D'autres pères encore pensent qu'ils s'en doutaient, mais sans avoir la certitude que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que là, on voit très bien que le démon a été détruit par son propre orgueil. S'il avait eu de l'humilité, il se serait effacé devant la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, justement en craignant de se faire écraser par Dieu, si notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Mais le démon a été incapable de faire cet acte d'humilité parce qu'il est l'orgueil incarné, et donc il s'est cru plus fort que Dieu. Parce que le démon dit « je ne servirai pas », c'est un acte d'orgueil. Il va pousser de la même façon Adam et Ève au paradis terrestre, avec les conséquences que ça entraîne. Il va pousser Adam et Ève justement à se prendre pour Dieu. Alors est-ce que Adam et Ève sont pris vraiment pour Dieu? Sans doute pas. Par contre, le démon, oui. N'oublions pas que Adam et Ève avaient une intelligence limitée parce qu'ils avaient une intelligence par abstraction, à partir des sensibles, alors que l'ange déchu, Lucifer, lui, comprenait les choses par intuition, et donc de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus profonde. Alors, on voit ici très bien que notre Seigneur Jésus-Christ prêche ces choses-là, ouvre les cœurs, mais laisse la liberté à chaque auditeur d'accepter ou non son enseignement. Avançons avec les versets 31 à 36 du chapitre 8. Jésus disait donc aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dites-vous, vous serez libres ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous met en liberté, vous serez vraiment libre. On voyait un petit peu le commentaire des pères sur ces textes qui ne sont pas faciles du tout à commenter. On voit très bien que les pères de l'Église, justement, ont essayé d'approfondir ce grand mystère. Ça, on touche à la Sainte Trinité, on touche à la dualité d'intelligence chez notre Seigneur Jésus-Christ, la dualité de volonté chez lui. N'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ, s'il est la deuxième personne de la Sainte Trinité, il a une double nature. Il a une nature humaine et une nature divine. Il est vraiment homme et il est vraiment Dieu. Donc, ayant une double nature, il a une double intelligence. Une intelligence humaine, une intelligence divine. Il a une double volonté, une volonté humaine, une volonté divine. Et c'est ceux qui ont nié cela, cette dualité d'intelligence et de volonté chez notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une hérésie qu'on appelle l'hérésie monophysite ou monothéliste. Donc, qui a fait beaucoup de dégâts, justement, au 3e siècle, surtout 2e, 3e siècle, même au 4e siècle, je crois. Beaucoup de dégâts parce que, justement, s'il réduisait, s'il n'acceptait pas la double intelligence et la double volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, ils étaient obligés de fondre en quelque sorte les deux natures humaines et divines en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, soit notre Seigneur Jésus-Christ n'avait plus qu'une seule nature qui était une espèce de mélange de divinité et d'humanité, soit notre Seigneur Jésus-Christ n'était qu'un Dieu sans être homme, soit notre Seigneur Jésus-Christ n'était qu'un homme sans être Dieu. Oui, il y avait toutes les possibilités. Voyons maintenant la page 23, les commentaires de ces versets. Vous croyez maintenant, si vous demeurez dans la foi, vous verrez ce que fait l'objet de votre foi. Car remarquez-le bien, la foi ne fut point produite par la connaissance, mais la connaissance a été le fruit de la foi. C'est la foi qui va ouvrir l'intelligence des hommes. Et pas l'intelligence qui conduit à la foi. Pourquoi? Parce que la foi est un don de Dieu. N'oubliez pas que la foi est une vertu surnaturelle, théologale, surnaturelle. Et donc, l'intelligence doit se soumettre à la vertu de foi. Tout homme, en effet, qui se laisse dominer par un désir coupable, abaisse et plie la liberté de son âme sous le joug de la servitude. Alors, attention, ça c'est très important à comprendre. Beaucoup de gens sont persuadés que la liberté est un bien absolu. Non, la liberté est une faiblesse. Le simple fait que je sois libre de perdre Dieu me montre que la liberté est quelque chose de répréhensible dans un certain sens. Parce que je suis libre, je peux perdre Dieu. Parce que je suis libre, je peux perdre ma place au ciel. Donc la liberté est une imperfection, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Vous voyez, bon, très bien, chez saint Thomas, c'est clair. La liberté est une imperfection, alors que le monde moderne soutient que la liberté est quelque chose qu'il faut accepter et viser tout le temps. Non, imaginez qu'au ciel, on ait encore la liberté de perdre le ciel, ce serait épouvantable. On n'a pas cette liberté au ciel. Donc la liberté est vraiment une imperfection, attention. Je conseille à tous ceux qui ne voient pas très clair sur ce sujet de relire la magnifique encyclique du pape Léon XIII, Libertas Prestantissimum, que vous trouvez assez facilement sur Internet, et de la lire, même si elle n'est pas très facile, c'est une encyclique très philosophique. Donc, si je me laisse dominer par un désir coupable, c'est-à-dire si je tombe dans le péché, je plie la liberté de mon âme sous le joug de la servitude. Donc si je deviens, si j'utilise ma liberté pour suivre le démon et de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien j'abaisse ma liberté dans un domaine qui n'est pas du tout le sien. C'est quelque chose aussi qu'on a énormément de difficultés à comprendre. Il est évident que la liberté, c'est le pouvoir de se mouvoir dans le bien. Il n'y a pas donc de liberté comme étant le pouvoir de se mouvoir dans le mal. Ça n'existe pas. La liberté est connotée et est en relation avec le bien, jamais avec le mal. Il n'y a pas donc de liberté en tant que telle de pratiquer le mal. Parce que le mal est interdit. Tu ne feras pas, dit notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la liste des commandements de Dieu. Ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire. Donc la liberté ne signifie pas que j'ai le droit de faire le mal. Dieu laisse faire le mal. Parce qu'il respecte notre libre arbitre, mais il ne nous a pas donné notre liberté pour que nous utilisions cette liberté pour faire le mal. La liberté, c'est simplement le pouvoir de se mouvoir dans le bien. Pour vous aider à avoir les idées claires là-dessus, je vous recite ce texte de Léon XIII, magnifique. Dans une société d'hommes, dit Léon XIII, la liberté digne de ce nom ne consiste pas à faire tout ce qui nous plaît. Ce serait dans l'État une confusion extrême, un trouble qui aboutirait à l'oppression. La liberté consiste en ce que, par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vivre selon les prescriptions de la loi éternelle. Donc le rôle des lois civiles est d'aider les citoyens à se mouvoir dans le bien. D'où cette définition du pape Léon XIII, qui définit magnifiquement, de manière très simple, cette liberté morale, quand il dit que c'est la faculté de se mouvoir dans le bien. Donc la liberté Morale n'est pas un absolu, elle est toute relative au bien, dire finalement à la loi. Alors c'est la loi, et d'abord la loi éternelle qui est dans l'intelligence divine, puis la loi naturelle qui est la participation de la loi éternelle par la créature raisonnable. Et c'est cette loi qui détermine l'ordre posé par le Créateur entre les fins qu'il assigne à l'homme, comme survivre, se multiplier, s'organiser en société, parvenir à sa fin ultime, le bien souverain qui est Dieu, et les moyens aptes à obtenir ses fins. Je vous lis un texte magnifique de Mgr Lefebvre, c'est tiré de son livre Il l'en découronné au chapitre 4. La loi donc n'est pas un antagoniste de la liberté, c'est au contraire une aide nécessaire. Il faut dire cela aussi, les lois civiles dignes de ce nom. Sans la loi, la liberté dégénère en licence, qui est faire ce qui me plaît. Précisément, certains libéraux, faisant de cette liberté morale un absolu, prêchent la licence, la liberté de faire indifféremment le bien ou le mal, d'adhérer indifféremment au vrai ou au faux. Mais qui ne voit que la possibilité de faillir au bien, loin d'être l'essence et la perfection de la liberté, est la marque de l'imperfection de l'homme déchu. Je répète cette phrase qui est fondamentale. Qui ne voit que la possibilité de faillir au bien, c'est-à-dire la possibilité de faire le mal, loin d'être l'essence et la perfection de la liberté, est la marque de l'imperfection de l'homme déchu. Donc celui qui veut transformer la liberté en licence, perd sa liberté et donc devient un esclave. Donc, comme l'explique saint Thomas, la faculté de pécher n'est pas une liberté, mais une servitude. Celui qui commet le péché est esclave du péché. Ça, c'est saint Jean, chapitre 8, verset 34. Que nous avons déjà vu. Je vous répète ce verset. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, quiconque commet le péché est esclave du péché. Celui qui commet le péché devient esclave du péché et donc perd sa liberté. Donc encore une fois, il faut arriver à se mettre ça dans la tête, ce qui est très difficile. Je reconnais que ce n'est pas évident du tout sur le plan intellectuel de comprendre que la liberté n'est pas le choix, le droit de faire, de pratiquer le mal. La liberté pour notre Seigneur Jésus-Christ est aligné avec le bien. Je suis libre de faire le bien. Je ne suis pas libre de faire le mal. Si j'utilise ma liberté pour faire le mal, j'utilise une liberté qui n'est plus la véritable liberté. Parce que la véritable liberté, c'est la faculté de me mouvoir dans le bien afin que je puisse aisément vivre selon les prescriptions de la vie éternelle. Donc, on a beaucoup de mal à comprendre évidemment ces choses-là, que notre Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas donné une liberté pour en faire ce qu'on veut. Vous voyez ? Alors, la liberté morale donc, concerne l'usage du libre arbitre. Et cette liberté morale est essentiellement relative au bien et pas au mal. Il n'y a pas de liberté morale de pratiquer le mal. Alors, il y a une liberté physique de pratiquer ce mal, ce qu'on appelle une liberté d'action, une liberté vis-à-vis de la contrainte, ce qui est l'absence de contrainte extérieure qui nous empêche d'agir selon notre conscience. Eh bien, c'est précisément cette liberté-là que les libéraux font un absolu. Oui. Et c'est une conception qu'il va falloir analyser, critiquer. Oui. Donc, je vous conseille beaucoup, pour ceux qui veulent le voir un peu plus clair là-dessus, de relire ce chapitre 4 magnifique du livre de Mgr Lefebvre, « Ils l'ont découronné ». Alors, voyons un peu, reprenons ce texte des Pères de l'Église. Tout homme qui se laisse dominer donc par un désir coupable perd l'usage de la liberté. Il abaisse et plie la liberté de son âme sous le joug de la servitude. Donc, tout homme qui se laisse être dominé par un désir coupable, c'est-à-dire tout homme qui tombe dans le péché, va perdre sa liberté. Parce qu'il n'a jamais reçu la liberté comme le pouvoir de pécher. La liberté, c'est le pouvoir de se mouvoir dans le bien, pas dans le mal. Alors, comment pouvons-nous résister à cette servitude ? Voilà ce que disent les Pères de l'Église. D'abord, lorsque nous luttons contre l'iniquité qui veut nous dominer. Il y a plusieurs façons de lutter contre l'iniquité. D'abord par la prière, bien sûr, puis par la pénitence, puis par les sacrements. Donc, quand je suis tenté d'utiliser ma liberté pour suivre un désir coupable, quand je suis tenté donc de perdre ma liberté, qu'est-ce que je dois faire ? C'est immédiatement me précipiter littéralement au confessionnal, parce qu'au confessionnal, je recevrai avec la grâce du bon Dieu la force nécessaire pour lutter contre cette mauvaise utilisation de ma liberté. On peut définir directement le péché comme étant le mauvais usage, le mauvais usage de ma liberté. La liberté m'a été donnée pour que je pratique le bien. Volontairement, je refuse d'utiliser cette liberté pour pratiquer le bien et j'utilise ma liberté pour pratiquer le mal. Donc nous pouvons résister également à cette servitude, disent les pères, lorsque nous résistons énergiquement à la tyrannie de l'habitude. Puis, lorsque nous détruisons en nous le crime par le repentir, et lorsque nous lavons dans nos larmes les souillures de nos fautes. Et tout ça est résumé par la confession, évidemment. Par la confession, je lutte contre l'iniquité qui veut me dominer, je résiste énergiquement à la tyrannie de l'habitude, je détruis en moi le crime par le repentir, et je lave dans mes larmes les souillures de mes fautes. Mais tout ça, c'est représenté par la confession. Donc Saint Grégoire explique que plus on se plonge directement et librement dans tous les excès du crime, et plus on resserre étroitement les chaînes de cet esclavage. Si vous voulez, plus je tombe dans le péché, plus je me vautre dans le péché, plus le démon fait de moi son esclave, parce que j'ai de moins en moins de liberté d'action. Parce que le péché entraîne l'esclavage. Donc imaginez un peu l'image d'une petite mouche qui vient de tomber dans une toile d'araignée. Donc qu'est-ce que fait l'araignée? Se précipite sur la mouche et va limiter au maximum les mouvements de la mouche en entourant le corps de cette pauvre mouche de ses fils de soie pour l'empêcher de battre des ailes, parce que si elle bat des ailes trop fort, elle risque de casser complètement la toile qui est très fragile. Et donc immédiatement, l'araignée va arriver, va piquer la mouche pour déjà commencer à la paralyser par un venin paralysant, et ensuite va l'entourer d'un cocon de fil de soie avant de pouvoir la dévorer tranquillement ou d'y pondre ses œufs, les œufs de sa progéniture. Donc, plus on se plonge librement dans tous les excès du crime, plus on resserre étroitement les chaînes de cet esclavage. Donc, plus je vis dans le péché, plus je suis esclave. Donc, plus je vis dans le péché, plus je suis esclave, et donc moins j'ai de liberté. Encore une fois, on retrouve la même idée, la liberté est annexée au bien, jamais au mal. Un texte ici de saint Augustin qui est très beau. Ô misérable servitude, l'esclave d'un homme fatigué du joug tyrannique de son maître cherche son repos dans la fuite, mais où peut fuir l'esclave du péché? Partout où il dirige ses pas, il se porte avec lui. Le péché qu'il a commis est nu au-dedans de lui-même. La volupté passe, le péché ne passe pas. Le plaisir qui flatte passe, le remords qui déchire demeure. Ça qui n'est vraiment pas très intéressant de pécher, parce qu'après, une fois qu'on a commis le péché, eh bien, il est très difficile. On ne peut pas arriver à trouver de joie. C'est pas possible qu'un catholique pratiquant puisse trouver la joie dans le péché. Le démon va lui mentir, lui sans croire qu'il va y avoir cette joie dans le péché, mais c'est absolument impossible. Il ne peut pas y avoir de joie dans le péché, parce qu'encore une fois, le péché signifie l'absence de possibilité de me mouvoir dans le bien. Donc, plus je commets de péché, plus je vis dans le péché, moins je suis libre. Le pécheur perd donc sa liberté. Celui-là seul peut nous délivrer du péché qui est venu sur la terre sans aucun péché et qui s'est offert en sacrifice pour le péché. Car pour l'esclave, il ne demeure pas toujours dans la maison. Et c'est le verset 35. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous met en liberté, vous serez vraiment libre. Donc cette maison, qu'est-ce que c'est que cette maison dont parle ici notre Seigneur? En Saint Jean 8, chapitre 8, verset 35, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais cette maison, c'est l'Église. Et l'esclave, c'est le pécheur. Encore une fois, toujours la même idée. Quand je tombe dans le péché, je deviens esclave du démon. Donc un grand nombre de pécheurs entrent dans l'Église. Ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ ne dit pas, l'esclave n'est pas dans la maison, mais il dit, il ne demeure pas toujours dans la maison. Mais s'il n'y a point d'esclave dans la maison, qu'y aura-t-il donc? Qui peut se glorifier d'être pur de tout péché? Donc notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde, si vous voulez, ne renvoie pas de la maison paternelle le pécheur. Sinon, il n'y aurait plus grand monde dans la maison de Dieu, dans l'Église. Si la maison, c'est l'Église, et qu'il n'y ait que des justes dans l'Église, eh bien, il est évident qu'il y aurait très peu de monde dans cette Église. N'oublions pas que l'Église n'est pas l'association des justes, absolument pas. C'est bien pour ça qu'il y a trois parties dans l'Église, attention. Il y a l'église militante, l'église souffrante et l'église triomphante. Certes, au ciel, il n'y a que les justes. Mais ici-bas, dans l'église militante, il y a de tout, si vous voulez. Il y a des gens qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ, hélas, des gens qui ne suivent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Même ceux qui ne suivent pas notre Seigneur Jésus-Christ ne perdent pas pour autant leur caractère baptismal. Et c'est le caractère baptismal qui fait de nous des enfants de Dieu. Une chose à pas oublier, c'est que même si je suis dans le péché mortel, je reste un enfant de Dieu. Certaines personnes pensent qu'à partir du moment où on commet une faute grave, on a perdu la grâce sanctifiante, et en perdu la grâce sanctifiante, on a donc perdu le caractère du baptême. Non, le caractère du baptême, par définition, un caractère est quelque chose d'inamovible, qui ne peut pas être enlevé. Caractère du baptême est inamovible, le caractère de la confirmation est inamovible, le caractère de l'ordre est inamovible. Puisque le baptême fait de nous des enfants de Dieu, la confirmation fait de nous des soldats de Dieu, et l'ordre fait de nous des ministres de Dieu. Et ce caractère ne peut pas être enlevé, même en enfer. Un prêtre qui tombe en enfer, hélas, il garde son caractère en enfer, il va souffrir encore plus à cause de ce caractère. C'est pareil pour le sacrement de confirmation, le sacrement de baptême. Cette parole du Sauveur est donc vraiment effrayante. Aussi ajoute-t-il, le Fils y demeure toujours. Et l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, parce qu'il va quitter cette maison lorsqu'il pêche. Il reste membre de l'Église, mais par son péché, il a perdu la grâce sanctifiante, mais reste membre de l'Église. Donc un pécheur reste un enfant de Dieu, attention. Pas oublier ça, heureusement, vous vous rendez compte si à chaque fois qu'on commettait une péché mortelle, on perdait notre caractère d'enfant de Dieu. Quelle tristesse ce serait. Alors, on avance un petit peu. Est-ce que donc le Christ, pose la question les pères de l'Église, est-ce donc que le Christ sera seul dans sa maison? Ou bien son nom de fils comprend-il le chef et les membres? Non. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si l'esclave, si la personne qui est tombée dans le péché est devenue esclave, il reste fils de Dieu par adoption. Mais celui qui, au contraire, ne commet pas de péché, ne tombe pas dans l'esclavage parce qu'il garde sa liberté, alors que celui qui est tombé dans le péché a perdu sa liberté. Ce n'est pas sans raison qu'il inspire tour à tour la crainte et l'espérance. La crainte, pour nous détourner d'aimer le péché. L'espérance, pour ne point nous laisser désespérer du pardon de nos péchés. Notre espérance est donc d'être délivré par celui qui est libre. C'est lui qui a payé notre rançon, non point de l'argent, mais avec son sang. C'est pour ça qu'il ajoute, si le Fils vous délivre, vous serez véritablement libre. Au verset 36 de ce chapitre 6. Donc, celui qui tombe dans le péché est devenu esclave. Celui qui se sort du péché, par exemple, par une bonne confession, va retrouver sa liberté et va redevenir véritablement libre. Contrairement à ce qu'on croit, encore une fois, il ne peut pas y avoir de liberté pour nous si nous sommes dans le péché. La liberté qui vient en premier lieu consiste donc à être exempt de tout crime. Mais ce n'est que le commencement de la liberté, ce n'en est point la perfection. Parce que la chair ne laisse point de convoiter encore contre l'esprit, en sorte que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc il va y avoir ce combat terrible dont parle saint Paul, entre ces choses que je ne dois pas faire et que je fais quand même, et ces choses que je voudrais faire, que je n'arrive pas à faire. Gardez-vous donc d'abuser de cette liberté pour pécher plus librement, mais servez-vous-en au contraire pour fuir les péchés, car votre volonté sera libre si elle est sincèrement pieuse. Vous serez affranchi du péché si vous êtes esclave de la justice. Donc, soit je suis esclave du démon et je perds ma liberté, soit je suis esclave de notre Seigneur Jésus-Christ et je retrouve ma liberté. Donc, analogiquement, ma doctrine vous délivrera de la corruption de ce lieu de mortalité, de change et d'exil, car elle vous apportera la liberté de l'immortalité bienheureuse et la gloire des enfants de Dieu. Donc, il faut méditer là-dessus, une fois que nous serons au ciel avec la grâce du bon Dieu, bien nous aurons non plus besoin de liberté parce que nous serons immergés dans l'amour de Dieu. Encore une fois, un élu du ciel ne peut pas perdre le ciel. Par contre, dans l'église militante, ici, on peut perdre la grâce sanctifiante. Ce n'est pas possible au ciel. Au ciel, la grâce sanctifiante, c'est une espèce, c'est la vision béatifique. En fait, nous verrons Dieu face à face, même si on ne peut pas voir tout de Dieu, parce qu'une créature ne peut pas comprendre le Créateur, c'est impossible. Mais cependant, au ciel, il y aura plus de limites. C'est comme si un voile est ôté. Donc gardons-nous d'abuser de cette liberté pour pécher plus librement, mais servez-vous-en au contraire pour fuir le péché, car votre volonté sera libre si elle est sincèrement pieuse. Donc je suis libre pour sortir du péché. En aucun cas je n'ai le droit d'utiliser ma liberté pour me maintenir dans le péché. Alors, voyons un petit peu les quatre esclavages, une partie importante sur les commentaires des pères d'église, en bas de la page 23. Le Christ nous libère de quatre esclavages et nous donne donc quatre libertés. Premièrement, l'esclavage de la loi. L'esclavage de la loi que le Christ a effacé avec la liberté de l'évangile. Deuxièmement, l'esclavage du péché, dont il nous délivre avec la liberté de la justice. Puis l'esclavage du pouvoir de la concupiscence qu'il brise avec la liberté de l'esprit et le pouvoir de la charité et de la grâce. Et enfin, l'esclavage de la mort et de la mortalité détruit par la liberté de la gloire de la résurrection. C'est très beau tout ça, vous voyez. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ nous rend libres en nous sortant du péché. Celui qui est dans le péché est esclave. Il est pieds et mains liés au pouvoir du démon. Et lorsque je sors du péché, c'est là que je trouve ma véritable liberté. Liberté de l'évangile, liberté de la justice, liberté de l'esprit, pouvoir de la charité et de la grâce, et enfin liberté de la gloire de la résurrection. Et les pères terminent en disant, quand le Christ justifie le pécheur, il l'aide par sa grâce à utiliser son libre arbitre, car le pécheur a péché avec son libre arbitre. Il se repentira avec ce même libre arbitre, aiguillonné par la grâce prévenante de Dieu. Et en pas que si j'ai le malheur d'avoir perdu Dieu, je ne peux pas retrouver sa grâce sans une grâce provenant de Dieu. Et cette grâce provenant de Dieu correspond en fait à la grâce actuelle. Des petites grâces en passant, dit le catéchisme, qui vont permettre à l'âme de se reprendre et de se remettre sur le chemin qui mène au confessionnal, donc qui mène au retour de la véritable liberté. Donc Dieu n'abandonne pas le pécheur, il va l'aider par sa grâce actuelle pour qu'il retrouve la grâce sanctifiante. Alors passons à la page 24, en haut de la page, donc versets 37 à 41. Je sais que vous êtes fils d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole n'a pas prise sur vous. Moi, je dis que j'ai vu ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez vu chez votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, mais cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père et lui dire, nous ne sommes pas les enfants de fornication, nous avons un seul père, Dieu. Les Juifs évidemment ne vont pas comprendre les paroles voilées de notre Seigneur Jésus-Christ. En voyant le commentaire de Pierre, des pères, donc il leur enlève peu à peu l'honneur de cette parenté, leur apprend à ne point tant s'en glorifier, car ce sont les œuvres surtout qui établissent la véritable parenté. Celui qui a la foi sans les œuvres a une foi morte, n'oublions pas Saint Jacques. De même que ce sont les œuvres qui font les hommes libres ou esclaves. Et pour leur ôter toute excuse de dire qu'ils agissaient en cela avec justice, le Sauveur leur fait connaître la cause de leur dessein coupable, parce que ma parole ne prend point en vous. Je dis, je ferme la porte de mon âme à la parole de Dieu, qui est dans notre Seigneur Jésus-Christ, ne peut pas rentrer dans ma maison, il ne va pas rentrer avec un pied de biche pour ouvrir la porte par effraction, il respecte mon libre examen et mon libre arbitre. Donc tous les hommes ne sont donc pas la semence d'Abraham, parce que tous n'ont pas ces semences intellectuelles infuses dans leurs âmes. Il faut que celui qui est la semence d'Abraham devienne aussi son fils en prenant sa ressemblance. Rappelez-vous cette phrase essentielle du livre de la Genèse, que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et encore une fois, tous les hommes sont différents. Il n'y a pas deux hommes qui ont la même image, la même ressemblance de Dieu. Impossible. D'abord, parce qu'il y a des images. Tous les hommes ont certes l'image de Dieu, ça c'est vrai. Parce que tous les hommes ont une âme. C'est cette image de Dieu qui est représentée par l'âme. Cependant, l'âme, tous les hommes ont une âme, mais tous les hommes n'ont pas une âme en état de grâce, hélas. Et tous les hommes n'ont pas une âme marquée par le sacrement de baptême, par le caractère du baptême. Tous les hommes n'ont pas une âme marquée par le sacrement de la confirmation. Bien sûr, tous les hommes n'ont pas une âme marquée par le sacrement de l'ordre. Vous voyez? Et donc, si tous les hommes ont une âme, tous les hommes sont donc créés à l'image de Dieu, mais tous les hommes ne sont pas créés à la ressemblance de Dieu, parce que la ressemblance de Dieu correspond à l'état de grâce. Or, tous les hommes ne sont pas en état de grâce, donc tous les hommes ne sont pas créés égaux en ressemblance par rapport à Dieu. Ils sont créés égaux par rapport à l'image de Dieu en eux. Donc, il peut arriver que par suite de sa négligence ou de son inaction, l'homme détruise en lui cette précieuse semence. Faites toutes les œuvres d'Abraham, en prenant toutefois la vie d'Abraham dans un sens allégorique et ses actions dans un sens spirituel. Donc si je peux malheureusement détruire en moi la précieuse semence, cette précieuse semence, c'est évidemment l'action de grâce. En effet, disent les pères, celui qui veut devenir le fils d'Abraham ne doit point, à l'exemple d'Abraham, prendre ses servantes pour épouse, ni après la mort de sa femme en épouser une autre dans sa vieillesse. Il faut se rappeler en effet que l'avènement spirituel de Jésus a toujours été présent pour les saints. D'où je conclus que tout homme qui, après sa régénération et les grâces célestes qu'il a reçues, retombe dans le péché, crucifie de nouveau le Fils de Dieu par les crimes dans lesquels il retombe. Rappelez-vous la phrase de Zacharie, celui qui commet une faute grave crucifie notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de son cœur. Donc, celui qui retombe dans le péché, disent les pères, crucifie de nouveau le Fils de Dieu pour les crimes dans lesquels il retombe. Donc, je participe de nouveau, je provoque de nouveau la passion de notre Seigneur Jésus-Christ chaque fois que je tombe dans l'état de péché mortel. Attention à ça, il faut y penser. Chaque fois que je commets un péché mortel, je prends le fouet littéralement des mains du bourreau pour frapper moi-même plus fort. Je répète cette phrase. Tout homme qui, après sa régénération et les grâces célestes qu'il a reçues, retombe dans le péché, crucifie de nouveau le Fils de Dieu pour les crimes dans lesquels il retombe. Son dessein, en leur parlant de la sorte, est de détruire en eux ces sentiments de vaine gloire que leur inspire leur parenté avec Abraham, ou de bien les persuader de placer l'espérance de leur salut non point dans une parenté toute naturelle, mais dans la parenté fondée sur l'adoption spirituelle. Parce qu'en effet, ce qui les empêchait de venir à Jésus-Christ, c'est qu'ils pensaient que cette parenté avec Abraham suffisait pour le salut. C'est comme ceux qui penseraient que le sacrement de baptême est suffisant pour le salut. Attention, suffisant pour le salut, si je meurs avec simplement le baptême, et que je n'ai commis aucune faute après le baptême, oui, à ce moment-là, le baptême est suffisant pour le salut. C'est le cas des enfants qui meurent juste après le baptême. Mais si malheureusement, après le baptême, j'ai, une fois devenu, ayant atteint l'âge de raison, je commence à rejeter notre Seigneur Jésus-Christ, ben à ce moment-là, le baptême n'est plus suffisant pour mon salut. Il va falloir que je rajoute un autre sacrement qu'un sacrement de pénitence. Verset 41, il est parlé des enfants de fornication. Vous faites les œuvres de votre père et lui dire, nous ne sommes pas des enfants de fornication, nous avons un seul père, Dieu. Donc les enfants de fornication, c'est les enfants du péché. Puis directement, le mot fornication chez les prophètes signifie l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est-à-dire l'adoration d'un faux Dieu. Cette idolâtrie est une fornication spirituelle qui pousse l'âme loin de son épouse légitime. Et donc on tombe dans l'infidélité. Donc, le péché mortel est en soi déjà un acte d'infidélité. Nous ne sommes pas nés de mariage mixte entre les juifs et les gentils, mariage interdit considéré comme illégitime par les juifs. Mais lorsque je commets une faute grave, je deviens un bâtard littéralement, parce que je contacte une union illicite avec le démon. Je mets le bon Dieu dehors et je demande au démon de venir prendre la place du bon Dieu et qui vient de quitter mon âme. Avançons donc avec les versets 42 et 43 de Saint Jean. Je Jésus leur dit donc, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, que je suis venu. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez entendre ma parole. » On voit très bien que le péché va, en quelque sorte, fermer les oreilles de l'âme. L'âme n'est plus capable d'entendre le bon Dieu qui lui parle, parce que justement, cette âme, en quelque sorte, fermer les sens qui lui permettent de se contacter à notre Seigneur Jésus-Christ. En voyant page 25, donc les commentaires des pères sur cette partie. Comme la Sainte Écriture donne le nom de fornication spirituelle au culte de l'âme, semblable à une prostituée, rend à une multitude de fausses divinités, il se hâte de répondre, nous ne sommes pas nés de la fornication, nous avons un seul Père qui est Dieu. Donc ici on parle donc de cette fornication spirituelle qui est un acte d'idolâtrie. La fornication, c'est quoi? C'est la relation sexuelle avec une personne qui n'est pas mon époux ou mon épouse légitime. Donc c'est un vol de quelque chose qui ne m'appartient pas. Et donc le péché n'est pas simplement un acte d'idolâtrie, mais c'est aussi un acte de fornication spirituelle. C'est-à-dire, je m'unis à une personne qui n'est pas mon époux légitime. Au lieu de m'unir avec notre Seigneur Jésus-Christ, ce que je dois le faire parce qu'il est mon époux légitime, je vais m'unir au démon lui-même. Et donc le péché est réellement un acte d'idolâtrie, l'adoration d'un faux Dieu, et un acte de fornication spirituelle, c'est-à-dire que je me prostitue littéralement à quelqu'un qui n'est pas mon époux légitime. Ce n'est point d'une épouse légitime, mais de la matière comme d'une prostituée que le démon qui ne fait rien de lui-même produit ceux qui, plongés dans les jouissances charnelles, sont esclaves de la matière. Donc de fils de Dieu, je deviens fils de la prostituée. Il faut vraiment méditer ces choses qui sont tellement importantes. Donc, ceux qui sont plongés dans les jouissances charnelles sont esclaves de la matière. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme des porcs, si vous voulez, qui vont se vautrer dans la boue du péché, et qui donc vont être incapables de lever les yeux vers le ciel pour voir la beauté du ciel. Si donc nous devons admettre la vérité de cette proposition, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez certainement, il faut admettre également la vérité de cette autre proposition. Si vous ne m'aimiez pas, Dieu ne serait pas votre Père. En fait, qui a le Fils a le Père. Et qui a le Père a le Fils. On peut dire qui a le Fils a le Père et le Saint-Esprit. Et qui a le Père a aussi le Fils et le Saint-Esprit. Et qui a le Saint-Esprit a le Fils et le Père. Il fut donc un temps où Saint Paul n'aimait pas Jésus avant sa conversion au chemin de Damas. Il fut un temps où Dieu n'était pas le Père de Paul. Paul ne fut donc jamais enfant de Dieu par nature, mais il est devenu par la suite enfant de Dieu par adoption. Notre Seigneur Jésus-Christ permet que nous quittions le péché, nous devenons enfants de Dieu par adoption. Donc n'oublions pas ça, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Plus exactement, l'homme catholique qui vit en état de grâce est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le païen n'est créé qu'à l'image de Dieu, il lui manque la ressemblance. Et c'est cette ressemblance qui nous permet d'aller au ciel, attention. Donc si je n'ai pas la ressemblance de Dieu en moi par l'état de grâce, eh bien je ne peux pas aller au ciel. Même si j'ai l'image de Dieu en moi, il manque la ressemblance. Quand devient-on le Fils de Dieu, si ce n'est quand on observe ses commandements? Par l'obéissance au commandement de Dieu, eh bien, je prends sur mon âme, si vous voulez, une gloire supplémentaire. J'étais image, je deviens ressemblance. Avançons avec les versets 44, 45 et 46 de Saint Jean, chapitre 8. Vous avez le diable pour père et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été homicide dès le commencement. Il n'est pas demeuré dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Et moi, quand je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui donc de vous me convaincra de péché? Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Donc essayons de méditer ces phrases qui sont extrêmement profond, dans, vraiment rentre dans le mystère même de la Sainte Trinité, la profanation de ce mystère, de la Sainte Trinité par le péché, parce que le péché est une idolâtrie et une fornication spirituelle. En voyant les commentaires de Saint Jean, pardon, les commentaires sur ces paroles de Saint Jean, commentaires du Père de l'Église, quant à ces paroles de Saint Jean, le démon pêche dès le commencement, il faut les entendre non point à partir du moment où il a été créé, mais de celui où il a commencé à pécher. Pourquoi le démon n'a pas toujours été un ange des ténèbres? Quand il a été créé de toutes pièces par Dieu comme ange, il a d'abord été créé par Dieu comme ange en état de grâce. Dieu a créé les anges dans un état de grâce, mais il leur a laissé une épreuve, et un tiers des anges a malheureusement refusé cette épreuve, est tombé dans l'épreuve, et évidemment ils ont tout perdu, ils se sont retrouvés à ce moment-là en enfer, lieu qui avait été créé par Dieu pour punir les anges pécaminaux. Et donc, encore une fois, rappelez-vous l'explication de Saint Bonaventure que je crois j'ai déjà expliqué, la fin du monde arrivera, le dernier homme qui meurt en état de grâce occupera la dernière place laissée libre au ciel. Donc c'est dans le démon que le péché a commencé, il a été lui-même le commencement du péché, il est la source, la racine de tout péché. Notre Seigneur veut indiquer que les Juifs ont pour père Caïn, parce qu'ils veulent se rendre ses imitateurs en le mettant à mort. Donc Caïn a tué son fils Abel. C'est Caïn, en effet, qui a donné le premier exemple de fratricide. Et le Sauveur dit qu'il puisse le mensonge dans son propre fond pour nous apprendre qu'on ne peut pécher que par sa propre volonté. Comme Caïn a été lui-même l'imitateur du diable, on lui donne pour père le diable dont il a imité les œuvres. Donc, que chacun se demande s'il écoute les paroles de Dieu avec l'oreille du cœur, il saura d'où il vient. Oui, donc il y a les oreilles du corps, les oreilles du cœur, les oreilles physiques et les oreilles spirituelles. Il en est en effet qu'ils ne veulent même pas écouter les préceptes divins des oreilles du corps. Beaucoup de gens sont comme ça dans le monde moderne, ne peuvent pas supporter qu'on leur parle du vrai Dieu. Si on leur parle du faux Dieu, ça ne les gêne pas du tout. Mais dès qu'on commence à leur parler du vrai Dieu, ils se bloquent complètement, ils ne veulent pas supporter l'idée même qu'on leur parle de Dieu. Il en est d'autres qui ouvrent ses oreilles pour les entendre, mais n'éprouvent pas ses préceptes. Mais s'ils n'éprouvent pour ses préceptes aucun désir du cœur. Il faut d'abord s'ouvrir à la grâce du bon Dieu, et ensuite demander d'avoir un grand, grand désir. Rappelez-vous Daniel qui était devenu un homme de désir. Il en est d'autres enfin qui reçoivent volontiers la parole de Dieu, qui s'en laissent pénétrer jusqu'aux larmes. Mais après ce moment consacré aux larmes du repentir, ils retournent à leurs iniquités. On peut dire qu'ils n'écoutent pas véritablement les paroles de Dieu parce qu'ils refusent de les traduire dans leurs œuvres. Encore une fois, attention, celui qui a la foi sans les œuvres est une foi morte. Il faut les œuvres de la foi. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Donc il faut traduire notre foi par les œuvres de la foi. Quelles sont les œuvres de la foi? La première œuvre de la foi, évidemment, c'est la charité. La première conséquence de la présence de la foi dans mon âme, avec la présence de l'espérance qui lui est jointe, c'est l'existence de la charité. La vérité donc nous invite à un long voyage vers le pays céleste pour écraser les désirs de la chair et cacher la gloire du monde. Pour ne pas convoiter les biens d'autrui, être libéral avec ses biens propres. Considérons en notre âme que Dieu doit écouter à l'oreille de notre cœur. Donc, il ne s'agit pas simplement d'écouter notre Seigneur avec les oreilles corporelles. Il faut descendre bien plus profondément et écouter notre Seigneur avec les oreilles spirituelles. Alors, nous en sommes maintenant à la page 26, les versets 47 à 51. Du chapitre 8 de Saint Jean. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est pour cela que vous n'écoutez point, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent donc et lui dirent, n'avons-nous pas raison de dire que vous êtes un Samaritain et un possédé du démon? Jésus répondit, je ne suis pas possédé du démon, mais j'honore mon Père et vous me déshonorez. Mais moi, je ne cherche pas ma propre gloire, il est quelqu'un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Cette mort, évidemment, dont il parlait ici, c'est la mort spirituelle, la mort par le péché. Si je garde ma parole, c'est-à-dire si je garde la parole divine, c'est-à-dire je garde l'état de grâce, je ne verrai jamais la mort du péché. Au contraire, si je commets le péché mortel, je ne garde plus la parole de Dieu. Il y a un lien, évidemment, entre ces deux choses. Donc Dieu cherche la gloire de Jésus-Christ dans chacun de ceux qui le reçoivent. Et il la trouve dans tous ceux qui cultivent avec soin les principes de vertu répandus dans leur âme. Mais s'il s'est trompé dans ses recherches, il punit sévèrement ceux en qui il ne trouve pas la gloire de son Fils. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ veut voir dans notre âme l'image de sa propre divinité. L'âme de l'âme étant comme un petit miroir qui doit refléter justement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que signifient ces paroles. Il est quelqu'un qui en prendra soin, qui fera justice. Notre Seigneur Jésus-Christ leur dit donc, c'est à mon Père de discerner, de séparer ma gloire de la vôtre, car vous ne recherchez que la gloire de ce monde, quant à moi, je ne veux point de cette gloire. La gloire du monde est ennemie de Dieu. Rappelez-vous ce que vous avez dit au soir de la vigile de Pascal, le monde est ennemi de Dieu. Donc si je recherche la gloire du monde, je suis automatiquement un ennemi de Dieu. Je ne peux pas rechercher la gloire de Dieu, la gloire du monde, sans être en même temps ipso facto un ennemi de Dieu. Donc Dieu distingue et sépare encore la gloire de son Fils de la gloire des hommes, car le mystère de son incarnation ne l'a pas entièrement assimilé à nous. Nous sommes des hommes coupables de péché, mais pour lui, il est sans péché, mais en tant qu'il a pris la forme d'esclave. Donc il s'est annihilé jusqu'à la forme d'esclave pour nous faire comprendre la gravité du péché. Donc c'est qu'il avait en vue une autre mort dont il était venu nous délivrer, la mort éternelle. La mort de la damnation que les démons et ses anges jouent, c'est la seule vraie mort, l'autre n'est qu'un passage. Rappelez-vous qu'il y a trois sortes de morts. La mort physique, séparation entre corps et l'âme, la mort spirituelle, la perte de l'état de grâce par le péché mortel, et la mort éternelle, le passage de cette vie à l'éternité en état de péché mortel. Donc la mort éternelle, évidemment, et la mort qu'il faut craindre d'abord, et pas avant toute chose. Le problème, c'est qu'on craint beaucoup plus la mort physique et qu'on ne craint pas assez la mort spirituelle. Donc, selon Origène, ces paroles, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort, verset 51, doivent être entendues dans ce sens. Si quelqu'un garde fidèlement ma lumière, il ne verra point les ténèbres. Pourquoi ? Parce que le mot éternellement doit être entendu dans cette signification usuelle. Celui qui garde éternellement ma parole ne verra jamais éternellement, ne verra pas éternellement la mort. Si je garde la parole de Dieu, c'est-à-dire si garder la parole de Dieu, c'est quoi? Garder la parole de Dieu, ça correspond à vivre en état de grâce. Donc si je garde éternellement la parole de Dieu, je ne verrai jamais la mort. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ va pouvoir venir s'installer dans mon cœur. On ne voit en effet jamais la mort tant qu'on garde la parole de Jésus, mais lorsqu'on se relâche dans l'observance de ses commandements, dans la vigilance en soi-même, sur soi-même, on cesse de garder sa parole, alors on voit la mort qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'en soi-même. Vous voyez, donc ici les pères insistent bien que le péché mortel, c'est la perte de Dieu, la perte immédiate de Dieu. Enfin, dernière phrase, dernier commentaire ici des pères de l'Église. Ainsi instruits par le Sauveur, nous pouvons répondre au prophète qui nous demande « Quel est l'homme qui vivra et ne verra pas la mort ?» C'est celui qui a gardé la parole de Jésus-Christ. Donc, lorsque je garde la parole de Jésus-Christ en vivant en état de grâce, je touche à l'immortalité et l'impassibilité divine. C'est pour ça que Dieu dit, celui qui garde ma parole, c'est-à-dire celui qui vit en état de grâce, ne verra jamais la mort parce qu'il a touché ma divinité. C'est comme Dieu, si vous voulez, qui touche quelqu'un de sa main divine et qui, en touchant cette personne, va rendre cette personne absolument impassible au péché. Le Samaritain est un gardien. Et le Christ est vraiment gardien. Si le Seigneur le garde la cité, c'est en vain que veille celui qui la garde. Pour ne pas nier qu'il est notre gardien, le Christ n'y a pas être un Samaritain. Vous voyez, il va accepter encore une fois d'être vilipendé par les hommes du monde. Voilà, donc nous allons arrêter là parce que ça fait déjà 1 heure que je vous parle. Il reste encore quelques versets pour terminer le chapitre 8 et nous commençons après, si Dieu veut, le chapitre 9. Je pense pouvoir faire cela la prochaine fois. Terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.